Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un krach boursier intervient souvent comme un retour de bâton, une correction violente d'un marché trop longtemps déconnecté de la réalité. D'une orgie gargantuesque de profits basée sur la spéculation, on passe soudainement à la désillusion des mêmes gloutons qui s'étaient gavés. Les conséquences, elles, sont bien trop sérieuses pour que l'on s'amuse du désarroi de quiconque. La planète financière entière est chamboulée, entraînant crise économique, chômage massif ou encore crise immobilière généralisée. Dans le cas du krach d'octobre 1987, si les conséquences ne sont pas aussi visibles que celui d'octobre 1929 ou encore que la crise des subprimes de 2008, elles révèlent néanmoins une tendance qu'il est désormais impossible à inverser. L'interdépendance croissante des marchés financiers. Ces lieux de production d'argent virtuel, basés sur l'unique spéculation, forment une bulle mondiale, abstraite, déterritorialisée et toujours plus déconnectée de l'économie réelle. De plus, la complexité des produits et des montages qui s'y échangent rendent extrêmement opaque leur activité, tant et si bien que le commun des mortels ne peut, et peut-être ne doit, en appréhender le fonctionnement précis. Car cette machine mondiale est repliée sur elle-même et ne suit que la loi du marché, axiome inébranlable du néolibéralisme devenu pensée économique orthodoxe. Dans ce numéro des enjeux internationaux du 24 décembre 1987 de Dominique Rousset, Dominique Delobier offre une synthèse efficace et très pédagogique des tenants et des aboutissants du krach boursier de 1987. L'occasion de se rendre compte que plus de 30 ans après, les idées et les pratiques responsables de cet épisode malheureux sont plus que jamais présents dans le paysage économique mondial, avec les conséquences que l'on connaît.
Les enjeux internationaux. Thierry Garcin, Éric Laurent, Dominique Rousset.
Réalisation Georges Kecef, bonjour. Le titre de ce matin pour les enjeux internationaux, les conséquences du krach boursier sur la croissance du monde financier, c'est un entretien d'Éric Laurent.
Après la tourmente traversée par les marchés financiers et par les places financières, quel est aujourd'hui l'état d'esprit en fait dominant au sein de cette communauté financière qui vit depuis plusieurs années dans une véritable euphorie ?
Oui, je pense qu'il y a un réajustement qui s'opère et la communauté financière est plutôt dans le désarroi, notamment en ce qui concerne le niveau à atteindre pour le dollar, que ce niveau puisse permettre un rétablissement de la balance commerciale américaine et qui n'est pas actuellement engagé sur le bon chemin. Alors ce qu'il faut voir, c'est que, bien entendu, plus le dollar baisse, plus les effets pervers d'une dépréciation de la monnaie se font sentir. C'est-à-dire qu'au début, les importations s'alourdissent pour les Américains, alors que les exportations ont du mal exprimées en dollars à s'améliorer, puisque les exportateurs américains gagnent moins de devises à l'étranger avec le même volume exporté. En conséquence, ce réajustement est long. Et l'ennui, c'est que comme le dollar se déprécie successivement par vagues tous les 6 mois, par conséquent, les courbes en J, comme disent les économistes, c'est-à-dire les effets pervers, se chevauchent. Si bien qu'on, pour l'instant, on n'observe pas d'amélioration. Alors qu'en volume, pourtant, les exportations américaines sont en train de remonter de 10 ou 15% depuis l'an dernier. Donc c'est un redressement sensible, mais qui ne se fait pas encore sortir sur la balance.
Et au niveau, justement, de la communauté strictement financière, elle ?
Bien, au niveau de la communauté strictement financière...
Comment ont été vécus les divers, on peut le dire, divers crashs qui ont donc eu lieu depuis octobre ?
Mais je crois qu'ils laissent les gourous de Wall Street dans le désarroi le plus complet. Un de ceux qui avait déclenché la crise, Robert Prechter, qui avait dit « vendez » quelques jours avant la crise.
Oui, il avait une lettre confidentielle.
Hein, oui, évidemment, ça se répand très vite. Et en donnant ces ordres-là, finalement, on déclenche le processus même que l'on annonce. C'est l'auto-justification des prophéties dans ce le domaine, Robert Prechter, donc le matin même du fameux crash du lundi 19 octobre, avait annoncé que le pire était passé et qu'il prévoyait facilement un Dow Jones qui était tombé autour de 2000, enfin qui allait tomber autour de 2000, il le voyait à 3500, 3600. Et quelques semaines après, interviewé par Business Week, il voyait le Dow Jones à 400 ou 500. C'est dire qu'il est complètement désorienté et beaucoup de ses collègues avec lui.
Mais quand on regarde la situation actuelle, je veux dire, le comportement en fait, parce que la psychologie joue un très grand rôle au fond.
Très grand, oui.
Et quand on regarde la psychologie des gens, on a l'impression que les gens souhaitent en effet que les prophéties se réalisent. Je veux dire par là que, au fond, tout le monde semble tabler à l'heure actuelle sur une récession. Et tout le monde a un comportement qui amène au fond presque à cette récession. Alors qu'elle n'a rien au fond encore de très fatal.
Non, rien de très fatal. Actuellement, les derniers indices qui concernent l'activité américaine font plutôt état au contraire. D'un état d'esprit assez satisfaisant. On ne sait pas encore bien l'ampleur des ventes, les fameuses ventes de décembre qui ont une grande importance aux États-Unis, mais à l'heure actuelle, il ne semble pas que les consommateurs américains soient vraiment très pessimistes. Ils le sont un petit peu, mais ça commençait déjà à descendre depuis octobre. Enfin, il y a pas mal d'autres indices qui témoignent plutôt, au contraire, d'une activité relativement soutenue aux États-Unis et même ailleurs. En Europe. Par conséquent, l'économie elle-même, l'économie réelle, par opposition à l'économie financière, ne semble pas encore atteinte. Et d'ailleurs, même sur le plan boursier, certains pensent que le pire est passé et que ça devrait se redresser dans les mois à venir. Bien que la communauté est quand même partagée.
Mais alors justement, vous savez, ceux qui constituent au fond l'ossature de ce dynamisme boursier, c'est-à-dire en effet donc des établissements, par exemple, comme Drexel Burnham, des gens comme Milken, qui étaient au fond les enfants prodiges du monde financier, et qui brassaient donc des sommes fabuleuses. Alors aujourd'hui, quelle est la situation de ces établissements ?
Bien, certains sont devenus très vulnérables. Il y a eu une conférence...
Pourquoi ?
Bien, parce qu'ils s'étaient overextended, c'est-à-dire ils avaient grossi trop fort. Un certain nombre avaient embauché à prix d'or les fameux Golden Boys qui étaient payés à plusieurs millions de francs par an, enfin l'équivalent de plusieurs millions de francs par an, aussi bien à Londres qu'à Wall Street, et qui avaient peut-être un ordinateur à la place du cerveau. Enfin, en tout cas, ils étaient très, très habiles. Mais finalement, on s'était aperçu que ces derniers mois, leur rentabilité diminuait. Les taux de profit, si vous voulez, des firmes de Wall Street, finalement, avaient décru depuis 2 ans par rapport à ce qui avait été observé auparavant. De sorte que, déjà avant la crise, certains établissements avaient licencié du personnel, avaient fermé, notamment une firme qui s'est retirée du marché des bons municipaux, d'autres avaient cessé certaines opérations.
Oui, par exemple, un gros opérateur comme Salomon Brothers a licencié plus de 800 personnes. Enfin, on le voit partout à travers la communauté financière, il y a des décrassages importants. Oui.
Alors, il faut savoir quand même que Wall Street avait contribué pour le quart des emplois créés à New York depuis 10 ans.
C'est en effet énorme, oui.
Oui, c'est quand même un impact assez fort. Cela dit, il faut quand même relativiser les choses. Wall Street n'est retombé qu'à son cours, enfin son niveau de décembre 86. Ils n'ont perdu, c'est parce qu'il y a une véritable explosion au cours de 87 que, bon, cette explosion a été effacée, si vous voulez. Il y a plusieurs milliers de milliards de dollars qui ont été volatilisés. Les Américains ont perdu, en gros, 1 000 milliards de dollars. Et le reste du monde, encore 1 000 milliards. Mais finalement, ils se retrouvent au niveau de décembre 86. Par conséquent, ça n'est pas encore catastrophique. Quant aux Japonais, c'est encore moins.
Mais alors, prenons le cas justement de la bourse du Japon, qui est une bourse tout de même qui peut être sujette à certaines appréhensions. Car quand on regarde par exemple la façon dont certaines entreprises sont surévaluées, on regarde par exemple le Nippon Telegraph Telephone, qui est un des fleurons de la bourse, et capitalisé quasiment 270 fois ses bénéfices.
Oui, oui.
Donc c'est une situation qui non plus ne peut pas probablement se prolonger très longtemps, si ?
Il y a un problème avec les Japonais. Ceci explique que finalement, étant donné le nombre de participations croisées entre la finance et l'industrie au Japon, les calculs de capitalisation précisément ne valent pas pour les Japonais. Ils ne peuvent pas être comparés à ce qu'ils sont aux États-Unis,
ah bon,
etc. Oui. Vous savez que justement la capitalisation moyenne aux États-Unis était de l'ordre normalement de 16 à long terme. Elle était montée à 23 juste avant le crash et apparemment c'était trop. Enfin, c'est la même chose qu'en 1929. Alors qu'au Japon, je crois que le price-earning ratio moyen était de 37.
On peut expliquer ce qu'est le price-earning ratio ?
Si vous voulez, c'est le rapport entre le cours de l'action et le dividende de l'année prochaine. Donc, c'est la façon dont c'est capitalisé, quoi. Bien, donc la capitalisation est beaucoup plus forte, effectivement, au Japon. Mais cela dit, il faut aussi dire, il faut souligner qu'au Japon, le marché est autorégulé. C'est-à-dire que le ministère des Finances a une grande influence sur les grandes maisons. Sans donner d'ordre, il se parle à mots couverts et donne des directives extrêmement ferme, si vous voulez, et le marché est soutenu par les grandes maisons de titres et les grandes banques. Et par conséquent, les Japonais pensent qu'il n'y aura pas de crash chez eux, étant donné que seuls ceux qui ont vendu, disent-ils, ce sont les étrangers. Et quelques petits porteurs. Mais les grandes maisons qui tiennent le marché, elles n'ont pas vendu.
Alors, quelles pourraient être, à votre avis, les conséquences, par exemple, de cette situation boursière, notamment de la perte de substance de certaines entreprises, je veux dire, de la perte d'importance des actions de certaines entreprises, sur les éventuels OPA? Est-ce que ça rend les entreprises beaucoup plus vulnérables? Le fait que, par exemple, leur course est fondue à peu près de quelquefois de plus de la moitié?
Oui, on voit un exemple avec la firme de la maison de titres Shearson Lehman, qui vient d'absorber Hutton pour le prix d'à peu près $1 milliard. Et l'an dernier, enfin, il y a un an, Hutton avait refusé une proposition qui l'estimait au double de la valeur à laquelle la transaction va se faire. Et par conséquent, Hutton, ayant perdu beaucoup, a été obligé de se soumettre aux nouvelles conditions. Il y a pas mal de firmes qui ont perdu de l'argent. On dit, par exemple, qu'en France, Thomson aurait joué sur le Matif et perdu également. Ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de firmes qui sont maintenant moins chères et par conséquent, qui sont des proies plus tentantes encore pour les OPA qu'elles ne l'étaient auparavant. Alors, d'autres qui avaient des trésors de guerre les ont vus amenuiser. Et par conséquent, peut-être moins de moyens pour le prendre. Un raider comme Holmes Harcourt, qui est un Australien d'origine et qui avait défrayé la chronique par ses coups, ses OPA lancés un peu partout dans le monde, se retrouve avec 700 ou 800 millions de dollars de dettes, je crois, enfin d'après ce que l'on dit, et est obligé de vendre précipitamment ses actifs pour rembourser les banques qui lui avaient prêté jusque-là. Mais certains spécialistes pensent que la vague d'OPA va reprendre d'ici quelques semaines ou quelques mois. Il y a eu une conférence faite par Gérard Worms, qui est professeur à HEC devant le club Interfinance.
Et qui est également des responsables de l'Indus Suez.
Oui, et qui, c'est peut-être même sa fonction la plus importante, et qui prévoit lui un déferlement des OPA. D'ailleurs, on voit certaines firmes qui sont actuellement en train de verrouiller leur capital, telles que Accor, par exemple, ou Télémécanique Électrique en France, pour précisément ne pas faire l'objet d'OPA.
Et c'est quelque chose qui pourrait donc justement se développer, y compris en France, où on a constaté qu'en fait, jusqu'alors, ça restait extrêmement mesuré, les OPA.
Oui,
on préférait plutôt les OPA ou les offres publiques d'échange. On peut d'ailleurs expliquer en deux mots la différence entre les deux.
Une OPA, c'est une offre qui est faite en bourse. Publiquement, le raider, celui qui compte prendre le contrôle de l'entreprise qu'il convoite, offre à tous les actionnaires d'acheter leur action à un prix supérieur au cours observé en bourse au moment du déclenchement de l'opération. L'OPE, et donc, lui offre un paiement comptant. C'est un échange d'actions. Ça s'est fait, par exemple, avec General Occidental et les presses de la cité.
D'accord. Mais est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas un autre problème qui est au fond un problème presque psychologique? Je veux dire, par là, quand on regarde aujourd'hui la circulation de l'argent, de la monnaie, à travers justement la formidable infrastructure technologique mise en place, c'est vrai que l'argent circule quasiment plus vite encore que les missiles ou que les armes. Quelqu'un en a fait remarque à travers
c'est
le
vrai.
Monde. Bon. Mais sur l'autre versant, est-ce que vous avez l'impression que les hommes sont suffisamment adaptés psychologiquement, justement, pour des performances pareilles? C'est-à-dire pour en effet analyser, percevoir, avoir le recul nécessaire par rapport à des opérations aussi rapides.
Vous avez tout à fait raison. Peter Drucker a fait, vous savez, le célèbre manager, celui qui donne des conseils et qui a fait beaucoup de livres sur le management, a fait une conférence la semaine dernière, je crois, enfin il y a très peu de temps, aux États-Unis. Il comparait les maisons de titres aux dinosaures. Il disait qu'au bout d'une certaine taille, si vous voulez, il faut un squelette pour pouvoir soutenir l'activité et le déplacement. Et pour les maisons de titres, disait-il, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine taille, il faut un appareil, il faut une structure. Et cette structure, ils ne l'ont pas toujours eue. Il faut également une structure financière. Et certains responsables ont été complètement débordés par la complexité des opérations. En plus, il faut ajouter que pour même les firmes industrielles qui, vous le savez, de plus en plus ont été tentées par la gestion de trésorerie.
Et on peut le dire également quelquefois par la spéculation.
Par la spéculation. Oui. Mais en fait, il faudra y revenir peut-être sur ce point. Ils ont donc engagé des trésoriers spécialisés qui ont voulu non seulement gérer la trésorerie, mais pour justifier leurs émoluments et réaliser des performances, se sont lancés au-delà de ce qui leur était, à proprement parler, demandé. Et par conséquent, ils ont également spéculé.
Vous dites que c'est par exemple le cas de Volkswagen?
Oui, Volkswagen, tout à fait. Volkswagen a été tourné par l'intérieur, si vous voulez. Ceux qui étaient chargés de la gestion des changes, de la trésorerie en change, ont cédé à la tentation de spéculer pour leur compte. En plus, certaines banques se sont prêtées à l'opération, apparemment. Mais ce qu'il faut quand même réhabiliter, c'est qu'on a accusé quand même la sphère financière de se gonflé au détriment de la sphère économique. Et vous avez peut-être vu qu'à la dernière journée des centrales de bilan qui est organisée par la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations, il y a eu une étude présentée par deux auteurs du Crédit National qui ont souligné que finalement ce sont quand même les firmes les plus performantes sur le plan industriel qui ont également réalisé les meilleures opérations sur le plan trésorerie. C'est-à-dire que leur activité sur la trésorerie ne les a pas détournées de l'investissement industriel.
Une dernière question. En fait, est-ce qu'il y a tout de même un vainqueur? Je veux dire, au-delà de la crise, est-ce que par exemple on peut dire que les banques commerciales tirent mieux leur épingle du jeu ?
Oui, certainement. Il y a même plusieurs vainqueurs. Par exemple, les entreprises allemandes ont été peu touchées, étant donné que la spéculation les avait moins atteintes. Mais ce que je pense, c'est surtout qu'il y a eu un phénomène d'assainissement. On sentait bien depuis plusieurs mois qu'il y avait tout de même une bulle spéculative et qui ne pouvait qu'exploser. C'était annoncé partout dans de nombreux journaux, par exemple le Financial Times ou en France les journaux spécialisés. Par conséquent, cette bulle devait crever, on l'annonçait dès 86. Cela dit, il faut quand même tenir compte de l'inflation et l'on voit que si l'on déflate la montée des cours par le rythme de l'inflation, on n'est pas tellement plus haut que certains sommets historiques qui ont été observés il y a 20 ou 30 ans.
Dominique Delobier, donc au micro d'Éric Laurent. Dominique Delobier, qui est économiste et chargé d'émission au CEPI, Centre d'études et de prospectives internationales.
C'était un numéro des enjeux internationaux du 24 décembre 1987 de Dominique Rousset, avec Dominique Delobier. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.